arrivé à l'heure. Oui. Donc tu
oui, je vais juste dire quelques mots par rapport à la dernière fois. Donc, je me suis arrêtée la dernière fois sur quelque chose qui semblait en contresens, qui concernait la question qu'il pose Louis Sitkovitch dans son livre « Les marques et l'analyse » sur les destins de la répétition. Ce que je n'avais pas entendu comme un contresens est devenu un contresens en le lisant, et puis avec vos réactions. Et du coup, ça m'a un peu travaillé. Et en fait, il semblerait, donc, dans ce que j'ai trouvé comme ouverture du séminaire de la logique du fantasme, donc la séance du 16 novembre 1966, dont Lacan présente son séminaire et dit qu'il va parler du retour, d'un retour qu'il a déjà travaillé dans son séminaire précédent, l'objet de la psychanalyse. Et il dit que c'est quelque chose qui découvre de la pensée freudienne qui est fondamentale. Et il dit ce retour s'appelle la répétition. Répétition. Répéter, ce n'est pas trouver la même chose, comme nous l'articulerons tout à l'heure. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas forcément répété indéfiniment. Donc, nous avions parlé des répétitions comme nécessaires dans l'analyse, et nous avons affirmé donc que la répétition est inévitable et qu'elle fait partie des structures du sujet. Par rapport à quoi ? Par rapport à cette notion que j'appellerais d'incomplétude. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la rencontre manquée avec un objet qui puisse venir compléter le sujet, et d'un autre côté, il y a la recherche de l'un, de faire un avec l'autre qui n'est pas non plus complet. Donc, de ces faits, la production des désirs du sujet tend à se compléter, il tend à se compléter en complétant l'autre. Le trait unaire apparaît comme effet de la répétition, et à travers la répétition, le sujet se dévoile, et si on peut le nommer comme ça, le sujet devient. La répétition en tant que structure de la sublimation veut dire que la répétition n'est pas censée s'arrêter, car c'est grâce à la répétition que c'est possible la production d'objets qui vont donner une satisfaction à la pulsion. On peut dire que les productions qui restent de la sublimation ont la même valeur de jouissance que l'objet petit a. De ce point de vue, la répétition est inhérente à la structure de la pulsion. On peut dire que c'est sa constance. Il ne faut pas que ça s'arrête. Mais comment lire cette deuxième partie de la citation de Lacan quand il dit que ce n'est pas obligatoire de répéter indéfiniment. Donc je donne ma lecture. Ce qui s'est produit dans l'analyse, comme effet des savoirs, est une modification du rapport du sujet à la jouissance produite par les symptômes, avec un effet de perte des jouissances. On peut dire que ce n'est pas obligatoire de répéter indéfiniment sur le plan de la jouissance liée aux symptômes. De ce point de vue, et sur ce plan de la jouissance liée aux symptômes, la répétition pourrait s'éteindre, ou en tout cas s'amoindrir, laissant place à autre chose, ce que Iskovitch nomme comme la production d'actes. Un acte répété visant le 1 avec un grand U, sans refoulement et sublimé. Donc un acte dépourvu un peu de, avec moins des jouissances symptomatiques, on va le dire comme ça. À partir de là, et nous pouvons faire le lien avec la phrase de Lacan du séminaire les quatre concepts où, à la fin de l'analyse, le fantasme devient pulsion. Donc, c'est, on peut faire le rapprochement avec ça. Le fantasme, rapport du sujet avec son désir, une fois repéré, les termes du fantasme, l'acte devient autre chose, hein, donc quelque chose qui serait moins encombré. Donc, de ce point de vue, on peut dire que la répétition n'est pas à peu s'arrêter. Hein. Parce que l'autre fois, on parlait de est-ce que la répétition s'arrête ou elle ne s'arrête pas. Je pense qu'on ne parle pas de la même, du même plan de la répétition. La répétition en tant que structure du sujet ne s'arrête pas. À la fois, quand on parle de la jouissance par rapport aux symptômes, ça peut s'arrêter. Voilà, c'est ce que je voulais répondre.
Bien. Sûrement, on va être nombreux à faire ça. Je vais intervenir, mais on prendra la fois prochaine, comme peut-être on se rapprochera plus de la question du sublimation et symptômes, lui-même. Quoi. Bon, je vais dire quelques mots avant l'intervention de Sof ce soir. Faire le lien un petit peu entre ce qu'on a vu la fois précédente et ce qu'on verra une fois suivante. La division en moyenne et extrême raison dont nous avons parlé la fois dernière est une première tentative de Lacan d'écrire ce qui fait obstacle au rapport sexuel, puisque c'est de l'écrire arithmétiquement qui constitue un impossible qui constitue l'obstacle, et comme impossible, c'est qu'ils sont réels. Impossible car rimant avec incommensurable. Pas de commune mesure ou un de l'union sexuelle, hein, pas ou un une R, de l'union sexuelle, pas de commune mesure ou un avec l'objet cause de désir, l'objet dit de jouir. Dans cette opération intervient aussi le phallus, car il donne la raison du désir, dit Lacan dans la signification du phallus. Et c'est un texte où Lacan cite pour la première fois la division harmonique, comme quoi justement il avait l'usage de cette division harmonique bien avant la logique du fantasme. Parce que c'est un texte qui date de. Je ne sais plus, 56. Et que le phallus, dit-il, est le signifiant privilégié de cette marque où la part du logos se conjoint à l'avènement du désir, mais ne joue son rôle que voilé. Et effectivement, il n'apparaît pas comme tel dans la division harmonique. Donc, mais il joue son, je dirais, donc, pour reprendre. Il joue son rôle voilé dans la vision harmonique où il n'est question que de l'un et de l'objet. Dans la suite de la division harmonique, logique du fantasme, Lacan propose de nouvelles écritures du réel du rapport sexuel. Les formules de la sexuation, 72, et le neuroméen, à 3, qui inclut la problématique du symptôme avec un nœud en plus, le quatrième. Alors, comment passe-t-il d'une écriture à l'autre ? Disait harmonique neuroméen. Qu'est-ce qu'elle change dans l'abord du réel du rapport sexuel ? C'est donc ce que nous proposons d'étudier dans les séminaires qui vont suivre, y compris, on s'est engagé quand même un peu pour l'année prochaine, non ? Je ne sais pas.
Oui.
On verra. En tout cas, c'est ce qu'on verra plus tard, disons. Et avec ce passage par le séminaire Oupir, où se formule le fameux Yadelin, où se formule l'inaccessibilité du 2 et la bifidité du 1, c'est-à-dire du 1 de sens et du 1 comptable, du 1 de l'union et du 1 du trait comptable lui-même. Kant parle de bifidité du verbe. En tout cas, dans ces écritures, suivant la division harmonique par rapport au rapport sexuel, ce qui persiste, c'est ce terme de rapport. Et si le terme reste, certains de ses coordonnées changent, ou plutôt semblent changer, puisque ça semble changer, puisqu'on commence donc avec la division harmonique avec une proportion de chiffres, de 1, de 1,618, etc., en fonction d'une mesure, et on passe avec RSI en 75 à des relations entre des anneaux de chaîne dans des nœuds bourdiens. Cependant, ça semble différent, mais ce n'est peut-être pas si éloigné, car on retrouve beaucoup de croisements de termes. Je rappelle que Lacan prend littéralement l'expression rapport, dans rapport sexuel. Rapport, c'est-à-dire A sur B. C'est un rapport mathématique, il le prend comme ça. Littéralement comme rapport de police, mais il le prend mathématique. Et que dans la division harmonique, il s'agit d'une égalité de rapport, c'est-à-dire d'une proportion. Proportion, c'est une égalité de rapport. Et c'est-à-dire une proportion qui crée une équivalence entre les deux rapports. Normalement, dans une proportion, il y a trois ou quatre termes. A est à B, donc A sur B est équivalent, est égal à, par exemple, C sur D. A est à B comme C est à D. Voilà, c'est une proportion, une égalité de rapport. Mais ce qui est particulier, on l'a vu avec la division harmonique, c'est qu'il n'y a pas quatre termes, mais en fait il y en a 2 plus 1, puisque c'est 1 sur A égale 1 plus A sur 1. Donc il y a deux termes, 1 et A. En fait il y en a un troisième, mais qui est implicite, qui est le produit des deux, qui est compté dans l'équation. 1, A et 1 plus A, qu'on peut compter, mais 1 plus A ne rajoute pas de terme, il rajoute une relation. Dans la relation de rapport, il rajoute une relation. Donc ce tiers-là est implicite, et c'est ce qui est constitutif de l'originalité, la singularité de cette formule de la division harmonique. On peut signaler aussi que le rapport, en ce sens, l'a dit, et définit aussi la métaphore, et donc le symptôme. Ici, par exemple, s'il n'y a pas de rapport sexuel, soit ça veut dire qu'on ne peut pas écrire homme sur femme, ou femme sur homme, selon ce qu'on préfère, comme disait Giraudoux, je crois, dans une pièce... La guerre de Troie n'aura pas lieu... Si vous l'avez en tête, il disait que dans le trajet pour aller à Troyes, on voyait Hélène et Paris plus souvent à l'horizontale. Et donc on peut mettre homme en haut, femme en bas, femme en haut, homme en bas. Donc 1 sur A égale 1 plus A est égal à homme plus femme. Donc il n'y a pas, c'est en ce sens là. Par rapport. On ne peut pas écrire homme sur femme égale A sur B égale à masculin sur féminin ou actif, passif, enfin bon, tous ces termes avec lesquels on cherche à désigner, ce serait une essence qui évidemment n'existe pas. Or, on trouve les mêmes termes de proportion, mesure, équivalence dans RSI à propos des nœuds borroméens. Et en référence au rapport sexuel. Ainsi, le 13 mai, dans le RSI, je donne au mot rapport, au sens du mot rapport, l'idée de proportion. Et il parle du non-rapport sexuel ensuite. De même, l'idée d'équivalence qui régit les relations entre les nœuds, que tel nœud est équivalent à tel autre, c'est toujours cet angle-là qui est défini, et associé à celle de rapport entre deux ensembles dans la formule X, R, Y, hein, qui constituerait deux classes d'équivalence. On ne peut pas, dit-il, c'est dans le 18 mars de RSI, hein, on ne peut pas écrire, impossible d'écrire X, R, Y, c'est-à-dire homme, rapport, femme, d'aucune façon. Il n'y a pas d'élaboration logicisable et du même coup mathématisable du rapport sexuel. Marquez que grand R, pour désigner la relation grand R, à mettre entre X et Y, c'est d'entrer dans, c'est déjà dans le jeu de l'écrit. Donc, le rapport sexuel, le rapport qui doit pouvoir s'écrire. Et, donc, cette idée-là d'équivalence, il est mis et supporté par l'idée de mise de classe d'équivalence, de rapport. Et on peut noter aussi que la notion d'équivalence, équivalence, c'est ce qui conditionne la notion de valeur. Hein. Le égal valeur, équivalence, égal valeur. Travail, salaire, hein. Signifiant, signifié, valeur d'usage, valeur d'échange. Et donc une certaine économie. Lacan se réfère à ce titre, quand il parle de la valeur, de l'équivalence, il se réfère à Marx, bien entendu, au Capital. Et dès les formations de la conscience, on commence à en parler, et qu'un objet devient la mesure de la valeur de l'autre, cela fait sortir du besoin. Un objet, effectivement, sert à mesurer la valeur de l'autre, sort de la problématique stricte du besoin. Et que la métonymie, cet objet objetal, métonymique, est à l'opposé de la dimension du sens. C'est-à-dire que la valeur s'oppose, elle est à un envers du sens. C'est-à-dire, ou bien on est dans une logique du sens, ou on est dans une logique de la valeur. Donc l'équivalence, c'est faire entrer ce qui va conditionner en quelque sorte cette notion de valeur, qui vient de s'opposer au sens. Donc, vous voyez, c'est ce dont ces termes sont porteurs aussi, quand ils parlent de l'équivalence des nœuds, il faut pouvoir les faire se répercuter avec ces différentes ramifications. Et à un certain moment, dans l'insuccès, par exemple, Lacan souhaite qu'on institue la psychanalyse comme une pratique sans valeur, dit-il. Et donc, c'est à entendre. En fonction de sa nouvelle définition de l'inconscient en tant qu'une bévue. Une bévue, c'est une bévue. Hein. L'inconscient ramené donc à une bévue n'assure l'unité d'aucun tout. Hein. C'est un tout faux. Un tout faux. Ça ne vaut que pièce par pièce, une bévue, mais pièce par pièce. Hein. Il n'y a pas d'inconscient, il n'y a pas de tout de l'inconscient, ce sac de l'inconscient, comme on peut parfois ce qu'imaginer, ça ne vaut que pièce par pièce dans sa valeur d'échange. C'est à ce terme donc, d'équivalence que Lacan revient, qu'il reprend pour désigner les relations entre les anneaux, selon qu'elles font rapport, quand il n'y a pas d'équivalence, non équivalence des anneaux, mais ça ne faudra pas pourquoi elles ne sont pas équivalentes, mais enfin c'est le terme qui choisit non équivalence des anneaux. Donc, pas de, ça signe un non-rapport, ou quand il y a équivalence des anneaux, ça fait rapport. Un non-rapport, c'est le symptôme. Le symptôme, il n'y a pas d'équivalence. Par ailleurs, l'idée même de mesure, donc, qui semblait tout à fait attachée à la division harmonique, et qui pouvait faire critiquer la division harmonique comme une conception géométrique, finalement, est reprise dans RSI, avec l'idée aussi de commune mesure. Au début de RSI, et plus loin, il revient à la division harmonique aussi en parlant de copulation du 1 et du 1. Copulation du 1 et du 1. Ça, on voit bien le sujet dont il traite, il reste dans ce film. Et on retrouve en effet l'idée du 1 avec l'anneau, hein, l'anneau, un des anneaux du nœud roméen, qui le représente, et ce qui était déjà présent dans Oupir, avec le 1 comme rond d'ouverture d'un sac troué. Donc le 1 avec au milieu le 0 du trou, et le 1 en tant qu'ouverture du sac, et qu'on va fermer, le sac avec un anneau en tirant du fond. Et c'est le fondement, dit-il, de Yadlin, le fondement de Yadlin comme sac. Et dans Encore, enfin bon, il y a ça à plusieurs reprises de différentes façons. Dans Encore, par exemple, le dit rond, le rond de l'anneau borroméen, est certainement la plus éminente représentation de l'un, en ce sens qu'il n'enferme qu'un trou. Et puis, un peu plus loin, toujours dans Encore, c'est en quoi le nœud borroméen est la meilleure métaphore de ceci, que nous ne possédons que de l'un, non pas au sens de la mesure, etc. On finit sur l'un, on ne va pas développer ça, mais enfin c'est pour vous dire, si vous voulez, qu'on retrouve cette question de l'un, avec les nœuds borroméens, dans le symptôme aussi d'ailleurs. Le nœud, donc, est fait de plusieurs uns, troués, c'est le seul support, dit-il, concevable d'un rapport entre quoi que ce soit et quoi que ce soit. Donc ça, c'est quand même une phrase très forte. Le nœud, c'est le support d'un rapport entre... Donc vous voyez comment ce terme de rapport circule, il est repris, et va résonner avec des problématiques quand même très différentes, apparemment différentes entre division harmonique et anneau borroméen. Autrement dit, le nœud borroméen donc reprend à son compte la question du rapport sexuel, du non rapport sexuel, en prolongeant bien la division harmonique 1 sur A égale 1 plus A. Avec le nœud borroméen, on a donc dans les trois ronds 3 1, 3 fois 1, et l'objet A qui est coincé au milieu. Donc on a les mêmes termes, on trouve les mêmes termes que dans la division harmonique. Et on peut tout à fait essayer d'envisager ces opérations de rabattement que Lacan a fait du petit a sur le a dans la division harmonique, on peut les envisager plus facilement, finalement, avec les anneaux du nœud borroméen. Rabattement de petit a sur a. Puisque vous vous souvenez que Lacan faisait équivaloir la ligne de la division harmonique, du segment de droite infini de la division harmonique, le faisait équivaloir avec la double boucle. C'était l'ouverture d'une double boucle. Et le 10 décembre, dans RSI, Lacan se réfère, je ne vais pas citer la tâche assez trop long, à la commune mesure, l'équivalence des 1 ou 1. Et cette fonction de l'équivalence des 1 au 1, donc c'est plus de 1 au A, mais c'est de 1 à 1, se pose à ce moment-là par rapport à la question du sens. Du sens, qui reprend cette problématique du sens et de l'équivalence, vous voyez, qu'il avait déjà abordé dans la formule, dans la formation, les formations de l'inconscient. Parce que si les anneaux. Si on nomme les anneaux R et SI, ils prennent un sens. Ils ont le sens réel, le sens symbolique ou le sens imaginaire. Ils deviennent donc doués d'un sens, or ce qui est contradictoire avec le réel, puisque le réel se définit comme hors sens. Donc donner du sens à un anneau, c'est un problème. Et c'est ça tout le début de R et SI qui l'amènera à supposer l'implicite d'un quatrième anneau, justement, pour résoudre cette contradiction. Mais là, il n'en est pas encore là, c'est-à-dire que si les anneaux ont un sens, RSI, que devient l'équivalence des 1 ? C'est toute la question pour lui de garder l'équivalence des 1, des 3 1, hors sens, en quelque sorte. Et alors, le 1 est-il la commune mesure ? Donc, il reprend ce terme de commune mesure. Voilà. Ainsi, il s'avère que pour aborder le rapport de la division harmonique, pas dans le passage de la division harmonique au nœud borroméen, il y a une répétition de la problématique du 1. Celle-ci fait l'objet du séminaire Oupir, je vous disais, qui est intermédiaire, et il y a aussi un autre séminaire intermédiaire qui prépare la voie d'un autre à l'autre, dans lequel l'accord reprend la division harmonique et en même temps la coordonne en quelque sorte avec la paire ordonnée du signifiant S1, S2 qu'il va inscrire dans la configuration topologique du cross-card. Je ne fais pas les dessins, mais vous trouvez ça dans d'un autre à l'autre facilement. Voilà, c'est quelques remarques, si vous voulez, pour vous montrer que dans le passage qu'il faudra faire, puisque l'enjeu de tout ça, c'est en effet cette mathématisation, cette arithmétisation du réel, hein, qui est du rapport sexuel pour Lacan, voir comment, en effet, il va faire jouer les mêmes termes avec des sens qui se recouvrent. Voilà, donc je te laisse la parole.
Bon, tout d'abord, je remercie Élie et Eric de m'avoir invité à parler ce soir. Bon, j'ai pas pu leur communiquer mon texte, en fait, c'est pas vraiment un texte, mais plutôt un brouillon d'ailleurs. Parce qu'il y a toujours la fonction de la hâte qui est en jeu. Je l'ai terminé il n'y a pas longtemps, il n'est pas terminé. Donc, bien évidemment, le style de mon propos va être un petit peu différent. Par rapport à ce qui vient d'être dit, mais je vais essayer de, bien évidemment de rester quand même en lien avec le travail de ce séminaire autour des questions de répétition, d'aliénation et autour de la question de la pulsion. Donc, Eric et Edith m'ont d'une certaine manière laissé carte blanche et je leur remercie de la confiance. Mais puisque justement un des concepts majeurs en jeu dans ces années-là, dans les années de séminaire 11, séminaire 14, sur les fondements ou le séminaire sur la logique du fantasme, puisqu'un des concepts majeurs c'est celui d'aliénation, on peut se poser la question d'emblée de savoir si carte blanche ça signifie vraiment quelque chose. Puisque d'une certaine manière, est-ce que ce n'est pas une formule déjà bien trompeuse? Puisque sur cette carte supposée blanche, il y a des traits qui sont écrits, je dirais, à l'encre, qu'on pourrait dire sympathiques, et qui sont déjà forcément là. Traits qui nous guident à notre insu et qui possèdent une ou plusieurs adresses, d'ailleurs. J'ai envie de dire qu'on ne choisit pas par hasard ou par simple goût de la recherche ou de l'avancée de quelque chose l'objet sur lequel va porter un travail, notre travail. Pas plus que le lieu où on a envie de l'exposer et pas plus que l'association à laquelle on souhaite ou pas participer. Il y a autant de déterminants pour chacun et pour chacune, inconscients, de cicatrices transférentielles, ou de ce que j'appellerais de symptômes transférentiels, que de décisions volontaires, de positions dites mûrement réfléchies. Mais en tout cas, il y a des actes. Justement, pour reprendre un des concepts en jeu. Je note ceci pour évoquer d'emblée un aspect, éviter, parce que je vais vous dire pourquoi, et pour évoquer d'emblée un aspect qui n'est évidemment pas le seul, qui concerne justement cette aliénation au sens de Lacan. Concept d'aliénation associé à celui de séparation, qui, vous le savez, sont les deux processus de subjectivation, et dont on trouve des développements dans le séminaire 11, dans l'article des écrits « Position de l'inconscient », au cours de laquelle Lacan réactualise donc en 64 ce qu'il avait énoncé au colloque de Bonneval sur l'inconscient, et bien évidemment dans le séminaire 14 sur la logique du fantasme. Il y a un lien, c'est évident, un lien extrêmement intime entre le séminaire 11 sur les fondements de la psychanalyse et ce séminaire 14 sur la logique du fantasme qui a été énoncé 3 ans plus tard. Pour une très grande part, de la même manière qu'Éric vient de parler de la manière dont Lacan retravaillait toujours, d'une certaine manière, il y a quelque chose là de la répétition, vraiment qui est en acte hein, dans son travail, avec à chaque fois quelque chose de différent, hein, passer de la logique à la topologie, en particulier d'une certaine forme de topologie à la logique, de la logique à une autre forme de topologie, celle des nœuds. Il y a quelque chose donc de la répétition, mais justement, entre le séminaire 11 et le séminaire 14, il y a de la même manière, il y a des développements hein, sur ces questions d'aliénation, de répétition, de sublimation, en articulation avec la pulsion, dans l'articulation entre la pulsion et l'autre. Entre ces deux séminaires hein, se trouvent, vous savez, ceux sur les problèmes cruciaux pour la psychanalyse, séminaire 12, où Lacan articule notamment savoir, sexe et sujet, et celui dont articulation meubienne, le jeu de l'amour, amour, M-O-U-2-R-E, et celui, donc, séminaire 13, celui sur l'objet de la psychanalyse, où il développe, où il reprend, là aussi, ce qu'il avait déjà commencé à avancer, mais où il le développe de manière extrêmement précise et fantastique, la question du regard, la question du regard comme objet. Donc, ce dont j'ai envie de vous parler ce soir va s'articuler dans une espèce d'aller-retour entre ces deux séminaires, le 11 et le 14, et l'article sur la position de l'inconscient. J'ai pas eu le temps, malheureusement, assez pour retravailler ce que je voulais dire sur la position de l'inconscient. Donc, je vais laisser un petit peu de côté ce soir, mais c'est un texte tout à fait essentiel. J'évoquerai peu, hein, pour des raisons surtout de temps, la question de la sublimation, qui est pourtant une des problématiques majeures abordées ici. Je me contenterai, mais c'est pas grand-chose, hein, mais je me contenterai de souligner ce que j'appellerais la dérive romantique de la fin de l'analyse, en tant que celle-ci devrait, presque un must, hein, devrait conduire au processus sublimatoire. Cette perspective, je pense, s'origine de la pensée de Mélanie Klein sur la créativité. Mélanie Klein que l'on décrit quand même pourtant peu romantique. Cela fait écho, en termes plus triviaux, à ce que je viens de dire, à la question surannée et pourtant répétée, un artiste, un créateur, une créatrice, risque-t-il de perdre son talent ou son génie créatif s'il fait une analyse ? Position qui était celle d'Artaud, sinon de Joyce, voire de Beckett, à la suite de son analyse avortée avec le jeune Bion. A l'inverse, nombreux sont les artistes, et là je parle en rapport avec la sublimation un peu des artistes par facilité, la sublimation ne s'exprime pas seulement dans les formes artistiques, évidemment, on en a parlé, c'est évident. Donc, à l'inverse, nombreux sont les artistes qui ont le recours à l'analyse par nécessité, justement pour pouvoir soutenir leur travail de création. J'avais organisé, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, un colloque au Centre Pompidou sur psychanalyse et théâtre, qui réunissait des professionnels de chaque domaine, des metteurs en scène, des acteurs, des analystes. Certains metteurs en scène et acteurs ont témoigné de cette nécessité, justement, de ce travail analytique. Ne serait-ce que pour reprendre leurs mots, à ne pas devenir fou dans les scènes où ils étaient, ou dans les mots qu'ils devaient utiliser, ou dans les personnages qu'ils devaient incarner, ou dans la création dans laquelle ils étaient pris. Dans la nécessité de création. En parallèle, combien de créateurs ou d'inventeurs ont eu affaire avec cette forme, avec une forme ou une autre de névrose ou psychose, sans s'allonger sur le divan et sans que cela tire absolument rien à leur génie. Et pour quitter le domaine esthétique, il suffit de s'intéresser un petit peu à la vie de Cantor, inventeur de la théorie des ensembles, ou de Gödel, énonciateur du célèbre principe d'incomplétude, dont Lacan a fait son miel. Sur la voie affirmé d'entrée de jeu dans le séminaire 14, hein, de l'absence d'univers du discours, hein, de l'incomplétude de l'autre, autrement dit de la barre mise sur l'autre, au fondement même du processus d'aliénation. Il arrive aussi, évidemment, hein, que ce qui semblait se présenter à l'orée d'une cure comme une vocation sublimatoire chute après quelques temps d'analyse, et on peut alors s'interroger sur la nature de ce processus de sublimation en se demandant si ce n'est pas tout simplement une construction phallique, sans autre nécessité qu'un rempart défensif. Vous savez que par rapport à la fin de l'analyse, les propos de Freud, comme ceux de Lacan, sont beaucoup plus modestes que ce que j'ai désigné un peu comme romantisme de l'instauration sublimatoire à l'issue d'une cure, où il faudrait sublimer, la cure permettrait de sublimer. Hein. La cure, je ne pense pas qu'elle permette forcément d'être créateur. Elle permet d'autres choses, heureusement, mais elle ne permet pas forcément d'être créateur. Freud considère, selon ses termes, que l'énergie auparavant mise dans le processus de refoulement va permettre d'aimer et de travailler. Mais cet amour et ce travail, on ne peut pas l'identifier comme ça à ce que serait de la sublimation. Ce n'est pas si simple. La sublimation, c'est quand même quelque chose d'un peu plus compliqué. Aimer, ce n'est pas simple non plus. Pour Lacan, pour le Lacan de l'insuccès, dont vient de parler Eric, l'issue de l'analyse, c'est l'identification sans symptôme. Et il dit avec humour, hein, ben c'est pas grand-chose, hein, si c'est pour aboutir à ça. Pourtant, on sait que ce pas grand-chose, ça n'est pas rien. Et qu'il y a en particulier à tenir énormément et éminemment au trajet qui conduit à ce pas grand-chose. Je n'irai pas plus loin sur ce concept de sublimation que ces remarques rapides que je viens de faire. Mais pour rester dans le cadre de ce séminaire, je reprendrai tout à l'heure deux autres concepts majeurs qui structurent le séminaire 14. Celui d'aliénation que j'ai déjà évoqué, peut-être que j'en parlerai relativement peu aussi, et plus celui de répétition, l'un et l'autre articulé à celui de pulsion. Je serai amené à apporter quelques remarques cliniques, notamment pour la répétition, et dans la suite justement de la référence qu'Edith MacClay a apportée à la fin du séminaire d'avril par rapport au livre d'Iskovitch et par rapport à cette question que tu poses justement des deux types de répétition. En tout cas, voilà. Parce que je trouve que c'est une vraie question. Et précisément, ce passage où Iskovitch évoque la visée analytique de l'arrêt de la répétition. C'est dont tu as parlé au départ. Et j'ajouterai à partir de ce qui se passe, à partir de la répétition dans la cure. Répétition symptomatique, dont on entend bien qu'elle est d'une autre consistance que la répétition logique, dont il est question dans le séminaire 14, et qu'Éric nous fait très bien entendre. Car, pour le dire dès à présent, et c'est une question que j'ouvre, bien plus que je n'y apporterai de réponse, est-ce qu'en tant qu'analyste praticien, et je pourrais dire d'analyste pathologique, au sens ancien du terme, et au sens où Lacan distingue à juste titre dans le séminaire 14 le sujet logique du sujet pathologique, sujet de fait aussi, celui sujet qui souffre et qui vient nous demander une analyse, est-ce que dans notre praxis d'analyste, une question fondamentale n'est-elle pas de pouvoir articuler, et pas de les opposer, hein, mais de les articuler, ce qu'il en est de cette logique de la répétition, de cette répétition logique, de cette constitution du sujet, dans la répétition, par le trait unaire, et de cette répétition symptomatique? Parce que ce n'est pas si simple. Si, comme l'énonce radicalement Lacan dans le séminaire 11, la répétition n'a rien à voir avec le transfert, formule extrêmement forte, hein. La répétition n'a rien à voir avec le transfert, position bien évidemment heuristique, hein, puisqu'elles sont absolument à différencier. même si c'est là donc, où Freud l'a reconnu, la répétition, est-ce qu'une des difficultés techniques et théoriques majeures, au sens d'une théorie de la cure, n'est-elle pas pour nous l'articulation de ces formes de répétition, formes de répétition logiques et l'autre que j'appellerais symptomo-transférentielle. En soulignant que selon moi, le travail de l'analyste s'apparente plus au travail du physicien, toute mesure gardée, qu'à celui du mathématicien. Si pour le mathématicien, comme le dit Russell, que Lacan cite aussi dans le séminaire 14, le mathématicien n'a absolument pas à savoir faire fonctionner le système, de savoir si ce dont il parle, savoir de quoi il parle, c'est pas tout à fait la même chose pour un physicien. Pour un physicien, même à partir du moment où physicien de physique théorique, puisqu'en même temps, la physique ne s'appréhende que par une expérimentation aussi. Et ce terme d'expérimentation est important, j'y reviendrai. C'est-à-dire qu'un physicien va se confronter à un réel, qui n'est pas le nôtre, mais l'analyste va se confronter à ce réel aussi, dû à ce que Lacan a appelé le non-rapport sexuel, et au transfert comme réalité sexuelle de l'inconscient. J'ai dit par rapport aux physiciens, toute mesure gardée, vous savez qu'il y a, enfin vous savez où je pense, qu'il y a une dizaine de jours, même pas, les physiciens viennent d'envoyer à partir de la base de Kourou, le CNES, le Centre d'études spatiales, vient d'envoyer un satellite pour mesurer, justement, c'est drôle, ça s'appelle le principe d'équivalence. Principe d'équivalence qui viendrait pour vérifier qu'est-ce que c'est que le principe d'équivalence. Enfin, pour le dire globalement, il y a quatre grandes forces dans qui gèrent, on va dire, l'univers. Trois forces électromagnétiques et la gravité. La force de gravité. Ça fait un siècle à peu près que les physiciens se battent pour essayer d'unifier ces quatre forces. Ou pour unifier la mécanique quantique et la théorie de la relativité générale, ce qui est une autre manière d'aborder la question. Ce qu'ils viennent de faire, donc ça date il y a 10 jours, ils ont envoyé un satellite, pendant 2 ans il va tourner autour de la Terre, à 700 km, pour savoir si, malgré ce qu'on nous a dit, si ça va remettre en question ce que Galilée, comme Newton, comme ce qu'on a appris, si une plume, pour le dire très rapidement, une plume et un plomb, vous savez, ce qu'on apprend, c'est que dans le vide, une plume ou un plomb tombe à la même vitesse. C'est ça qu'on appelle le principe d'équivalence. Or, si, donc ils ont fait tout un système dans le satellite, pour se poser la question, est-ce qu'à un certain niveau, à une certaine vitesse, etc., une certaine accélération, est-ce que c'est toujours vrai? Et si c'est pas vrai, ça va contredire un certain nombre de grandes théories, en tout cas ça va en infirmer, ça va éliminer un certain nombre de théories, donc de constructions symboliques, peut-être pour en rajouter d'autres, et pour, à ce moment-là, dire que peut-être existent des formes corpusculaires qui sont inventées, qui sont créées par la théorie mathématique de la physique, donc pour le moment dont on n'a absolument aucune trace. C'est-à-dire que ce jeu entre théorie et pratique me paraît quelque chose qui a à voir aussi avec notre pratique à nous. On est en permanence dans cette question-là. Bien évidemment, on n'a pas la même notion de la mesure. Puisque, en fait, ce qu'ils vont montrer, c'est que entre quelque chose qui va tomber et quelque chose qui va tomber, ce qu'ils veulent montrer, c'est qu'il y a peut-être un millième, deux millièmes, deux millièmes de différence. Deux secondes de différence. On n'en est vraiment pas là. Et ce n'est pas le problème. Mais avant d'entrer donc, dans cette voie de la répétition, je reprends mon exposé, voire de l'aliénation, je reviendrai un temps en arrière Par rapport à ce séminaire lui-même, entend qu'il a été question du passage du fantasme à la pulsion à l'issue de l'analyse. Vous savez, on en a parlé. C'était en fait mon premier projet d'exposé quand Élie et Éric m'ont proposé d'intervenir dans ce séminaire. Je rappelle cette formule aphoristique célèbre qui fait énigme, qui est proférée par Lacan le 24 juin 64, ce qui ne nous rajeunit pas forcément, lors de la séance ultime du séminaire 11 sur les fondements de la psychanalyse. Cette formule est bien connue et répétée souvent sous sa forme, je veux dire abrégée. En fin d'analyse, le fantasme devient la pulsion. Quelque chose qui pourrait s'écrire, mais il faut y faire très attention. S barré, poinçon, petit 1, devient S barré, poinçon, grand. Donc, mon premier projet était donc de travailler cet aphorisme énigmatique. Je ne sais pas si j'irai plus loin, je dois vous dire. Donc, mon premier projet était donc de travailler cet aphorisme énigmatique, ce qu'il recouvre, en suivant, évidemment, ma propre lecture. Je n'abandonnerai pas totalement ce projet ce soir, en essayant de l'aborder de manière un peu concise. Rassembler sur ce qui me semble essentiel pour en saisir le sens et la portée. Et cela représentera une introduction éventuelle à la question de la répétition, qui viendra ensuite. Donc j'ai dit, ce préambule étant effectué, qu'on allait aborder cette question relative à cette sorte de métamorphose du fantasme en pulsion, donc qui pourrait trop facilement s'écrire, tel que je l'ai indiqué ici. Pourquoi trop facilement? C'est qu'il faudrait notamment en dire un peu plus sur Grandet, sur la demande, sur ce baptême de la demande. Vous savez que Lacan, quand il forge ce baptême de la pulsion, s'appuie sur la demande en tant que névrotique. Il considère à juste titre, dans le cadre de la névrose, que Freud a, et lui, mais que Freud a hypostasié, a dégagé les objets pulsionnels à partir de la dynamique de la demande en jeu entre le sujet et l'autre. C'est à partir de ce jeu de la demande et de ce que Freud en a, même si le terme de demande il est lacanien, il n'est pas freudien, mais que c'est dans le jeu que les objets, en particulier oral, l'objet oral et l'objet anal, ont été déterminés, pour avoir été mis en avant par Freud. Au sens où dans la névrose, vous savez, il y a une tentative d'obturation du désir, du manque de et dans l'autre, par ces objets imaginaires de la demande. Donc classiquement, objet oral est comme objet de la demande à l'autre, et objet anal comme objet de la demande de l'autre. De ce jeu, c'est dans ce jeu de la demande névrotique que s'origine cette formule de la pulsion S barré, poinçon grandé, pour Lacan. Or, on ne voit pas très bien quel bénéfice on pourrait tirer d'une analyse si ce statut de la demande, ce grandé, ne se métamorphosait pas, ne se transmuait pas par lui-même. Donc, si l'on veut suivre Lacan dans ce mouvement du fantasme en pulsion, cela ne signifie pas, évidemment, qu'il n'y a plus de demande à la fin d'une analyse. Et je dis ça parce que j'ai entendu des collègues en disant, voilà, à la fin d'une analyse, on n'est plus dans la demande. C'est totalement idiot par rapport même à la théorie de Lacan. Mais que la demande poursuit son circuit sans se fixer sur un objet, permettant corrélativement le maintien un maintien ouvert et assumé, on va dire, du désir et de la place de l'objet A comme manque, comme cause. Ce qui pourrait s'écrire, alors c'est vraiment une proposition qui vaut ce qu'elle vaut, je l'ai écrit comme ça. Petit D, désir, poinçon, grand D. Donc conjonction et disjonction entre le désir et la demande. Ma thème qui m'est venue en préparant cet exposé, qui est à prendre comme une proposition, mais qui serait assez conséquente avec ce que Lacan énonce dans cette même séance du séminaire du 24 juin 64, quand il dit « L'analyse s'engage dans le manque central où le sujet s'expérimente comme désir. » Et là, à nouveau, hein, je souligne le mot « s'expérimente ». J'ai parlé il y a quelques minutes de la forme abrégée de cet aphorisme. En effet, quelle est la formulation exacte de Lacan? Et là, je me réfère à la version de cette affaire-là, que vous avez sur Internet, qui est absolument conforme à la sténotypie, et non pas à la version de Miller, en tout cas, moi, dans l'ancien livre que j'avais, je ne sais pas s'il a fait des rééditions, mais où il y a quand même pas mal d'erreurs. La version, moi j'ai le livre, le séminaire 11, qui a été édité en 73, je ne sais pas si c'est dans d'autres éditions s'il a corrigé ses erreurs, mais ce n'était pas tout à fait son style. Mais en tout cas, voilà. Donc, je pense que c'est intéressant de se référer plutôt à la version de cette affaire-là. Et je vous donnerai tout à l'heure, hein, en particulier, un contresens que Miller fait à la fin justement de cette séance du 24 juin. Mais avançons. Hein. Donc, qu'est-ce que Lacan dit exactement? Quelle est la formulation exacte de Lacan dans ce passage du séminaire? Je le cite. C'est au-delà de cette fonction du petit a. Ça a à voir avec ça, que la courbe se referme là où elle n'est jamais dite concernant l'issue de l'analyse, à savoir après ce repérage du sujet par rapport au petit a, et c'est là où ça vient, cette expérience du fantasme fondamental devient la pulsion. Cette expérience du fantasme fondamental devient la pulsion, car au-delà, c'est la pulsion qui est en cause. Fin de citation. Je vais revenir dans un instant sur cet au-delà de la fonction du petit a. Pour souligner un terme qui me paraît essentiel, c'est celui d'expérience. Je pense que vous l'avez entendu. Ce terme d'expérience est répété, sinon martelé, à plusieurs reprises dans cette dernière séance. J'ai déjà évoqué tout à l'heure, le sujet s'expérimente comme désir. Ici, il est question de l'expérience du fantasme fondamental. Juste après, il va être question de l'expérience concernant ce rapport à la pulsion. Puis, de la nécessité pour parler de ce passage qui désigne aussi la traversée du fantasme, d'avoir traversé, je cite, dans sa totalité l'expérience analytique. Voire juste un peu plus haut, où il est question de la séparation du sujet dans l'expérience, qui est corrélative à, je cite encore, l'expérience au niveau grand autre, et nommément l'analyse au niveau de l'objet A. Donc vous voyez que ce terme d'expérience qui revient d'une manière extrêmement répétitive, justement. Donc, je cite ce passage entièrement, car on va y revenir. C'est pour autant que quelque chose que nous appellerons un X, et que nous appellerons qui reste un X, le désir de l'analyste, c'est pour autant que quelque chose donc le désir de l'analyste, tend dans le sens exactement contraire à l'identification que le franchissement est possible par l'intermédiaire de la séparation du sujet dans l'expérience. L'expérience au niveau de l'autre, et nommément l'analyste au niveau de l'objet A, se voit ramenée au plan où A a se présentifié de la réalité de l'inconscient, réalité sexuelle, ceci d'essentiel qui est la pulsion. Donc l'expérience au niveau de l'autre, et nommément l'analyste au niveau de l'objet A, ça va donner chez Miller l'expérience du sujet se voit ramener au plan où a se présentifié la réalité sexuelle de l'inconscient. C'est quand même quelque chose là qui ne va pas très bien. Mais c'est vraiment pas ça l'essentiel. Donc, dans un article intitulé « Du fantasme à la pulsion vers un lieu d'école », vers un lien d'école, c'est un article qui est paru en 2002 dans le numéro 12 des Saints. Françoise Sanson, je ne sais pas si elle est ici, donc faisait déjà remarquer précisément cette formulation d'expérience du fantasme, sans pour autant, me semble-t-il, en tirer plus de conséquences. Elle le dit, elle le nomme, elle marque fantasme et expérience du fantasme, c'est pas la même chose entre le concept et l'expérience du fantasme. Donc, mais je passe, parce que son propos de Françoise Sanson, se développe dans une autre direction, à l'appui d'une mise en parallèle des positions freudiennes et lacaniennes, et ce que cela pourrait engendrer dans un lien entre analystes, cette formulation de l'issue de l'analyse. Or, je pense que cette expérience du fantasme demande à être dépliée, en tant qu'elle désigne très nettement l'expérience de la traversée du fantasme. C'est ça, cette expérience du fantasme. Formulation de traversée du fantasme qui a pu être utilisée, vous le savez, comme un véritable fétiche, avec sa valeur d'opacité sidérante, alors que Lacan y a recours que très peu de fois. Pourtant, à suivre Lacan dans ce passage, cette expérience du fantasme, cette expérience de la traversée du fantasme, peut se saisir assez aisément, je crois, à l'appui d'ailleurs de la topologie de la double boucle. Oui.
Moi, j'aimerais qu'on s'arrête, que tu arrêtes à 10h30, comme ça on a une demi-heure pour discuter.
Ah bah oui, d'accord, ouais. J'arrêterai à 10h30. Ça va ou...
Oui.
Donc, de quoi parle Lacan juste avant l'énoncé de l'aphorisme? Il traite justement du franchissement dans la cure du plan d'identification. Franchissement qui est supporté par le désir de l'analyste. Mais cette identification, hein, ce plan d'identification, cette identification n'est pas à entendre comme l'identification spéculaire à l'analyste. L'identification, vous savez que Lacan avait énormément critiqué par rapport à certaines théories, en particulier de l'égo-psychologie. Cette identification dont il est question de franchir le plan, c'est celle de Granty, d'idéal du moi, point situé dans l'autre, ici l'analyste, d'où le sujet veut se voir comme aimable. On peut dire que c'est un idéal, en tout cas. Aussi cette position-là, parce que ce n'est pas toujours réalisé, même chez les analystes. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'absolument essentiel comme visée. C'est dans ce passage que Lacan, vous le savez, énonce cette visée technique fondamentale. Le ressort fondamental de l'opération analytique, c'est le maintien de la distance entre le grand I et petit a. Je cite là, un peu plus précisément le passage de Lacan, un peu plus in extenso. Pour vous donner deux formules repères qui soient aussi structurantes que possible, je dirais que si d'une part le transfert Et ce qui écarte la demande de la pulsion est que le transfert fait une sorte de court-circuit qui ne permet pas justement la traversée du plan. Le transfert est ce qui écarte la demande de la pulsion, le désir de l'analyste est ce qui l'y ramène, et par cette voie d'isoler, de mettre à la plus grande distance possible le petit a du grand i que lui, l'analyste, est amené par le sujet à incarner. C'est-à-dire que justement, le travail là, le t, c'est le fait du transfert, ça c'est le schéma que vous trouvez dans la séance du 24 juin aussi. Alors, j'en ai fait un cœur, c'est assez drôle parce que ça a à voir aussi avec la question de l'amour, bien évidemment. C'est venu comme ça. Et donc, la question du transfert est là. Bien évidemment, la question du transfert va en permanence relancer la dynamique de la demande du côté de l'identification, du côté du plan, justement, idéal. Là où la fonction de l'analyste, ça va être justement de sortir de ce plan d'identification pour aller du côté de l'objet A et du côté du désir. Et qui relance, bien évidemment, la demande. C'est ça, la traversée. C'est dans la mesure où l'analyste a, si je puis dire, à déchoir de cette idéalisation, pour être le support de cet objet séparateur. Donc, séparateur, et la séparation, elle est là, ici. Hein, la séparation, elle est dans cette double boucle. Elle est entre la première et la seconde boucle en même temps. Seconde boucle qui crée la première. Hein, c'est... On le sait, mais qu'il y a quelque chose là qui doit se détacher, qui doit s'ouvrir, et c'est le petit a, objet séparateur, que vient incarner l'analyste. Et incarner, c'est le mot, hein, c'est le mot de Lacan. Donc c'est dans la mesure où l'analyste a déchoir de cette idéalisation, déchoir de la position de grandi, hein, de ne pas accepter, de ne pas se complaire de cette position dans laquelle il est mis justement, d'être le lieu dans lequel le sujet se voit comme aimable, mais être le support de cet objet séparateur qui est le petit a, dans la mesure où son désir, le désir de l'analyste, hein, désir fonctionnel, de fonction en fonction, son désir lui permet de supporter, d'incarner que ce franchissement du plan d'identification est possible. Je vais revenir dans un instant sur ce schéma qui me semble tout à fait fondamental, et en particulier pour reprendre la question qu'Edith avait évoquée la dernière fois et a reprise tout à l'heure, sur la ou les répétitions. En tout cas, quelle consistance est-ce qu'on peut donner? Est-ce qu'elles ont des consistances différentes? Comment est-ce qu'on peut entendre? Comment est-ce qu'on peut les discriminer ou pas? Mais quelques mots, hein, encore, sur cet aphorisme. Sur l'aphorisme de l'expérience du fantasme qui devient la pulsion. Parce que, considérez que l'expérience du fantasme, dont il est question, et ce franchissement du plan d'identification laisse quand même presque intact ce passage à la pulsion. Ça n'en dit rien, d'une certaine manière. En tout cas, ça laisse quand même une certaine opacité. Ce passage à la pulsion, c'est évidemment pas tout à fait la même chose que ce que Freud, on va dire dans les temps pré-analytiques, désignait comme devenir un être bien portant. Parce que qu'est-ce que c'était qu'un être bien portant, à la limite, pour Freud en 1897, quand il écrit dans les lettres à Fliss? Eh bien, c'était le pervers. C'était très clair. Puisque dans sa première conception, hein, où il définit la névrose comme le négatif de la perversion, le pervers est celui qui serait dans la pulsion, même si ce terme de pulsion n'est pas encore forgé par Freud, mais en tout cas on peut l'entendre comme ça, celui qui se permettrait la sexualité, là où le névrosé, d'une certaine manière, se l'interdirait. Il le dit texto. Hein, le bien portant, il y a un pervers n'a pas besoin de faire d'analyse, parce qu'il est bien portant. Heureusement, Freud n'en est pas resté à cette conception totalement illusoire. Alors, pour Lacan, qu'est-ce que ça veut dire, ce passage à la pulsion? Et s'il on peut trouver déjà une réponse, même si elle n'est pas, elle ne peut pas être entièrement satisfaisante, et pour Lacan, elle ne l'était pas, et on va voir ce qu'il a mis en place à partir de là, pour essayer d'y répondre, c'est quelque chose qui a à voir avec la question de l'amour, justement, hein, dont il parle dans les derniers chapitres de cette séance du séminaire du 24 juin 64. Que cet amour, et c'est la question de l'au-delà aussi, je le cite, que cet amour dont il est apparu aux yeux de certains que nous avons procédé en quelque sorte au ravalement, réponse à ces détracteurs, hein, que cet amour ne puisse s'instituer, se poser de lui-même que dans cet au-delà où d'abord il renonce à son objet, c'est quelque chose d'absolument essentiel, et on va voir ce qu'il en dit dans la logique du fantasme, où il reprend cette question-là. Donc, cet amour ne peut s'instituer, se poser lui-même que dans cet au-delà où d'abord il renonce à son objet, on va dire objet fétiche ou objet postiche, c'est là aussi ce qui nous permet de comprendre que tout ce qui a pu être construit d'abri ou de relation vivable d'un sexe à l'autre et pu s'instituer nécessite l'intervention, et c'est là aussi l'enseignement de la psychanalyse, de ce médium de la métaphore paternelle. Et vous entendez bien que là aussi, la différence qu'il y a entre cette relation vivable d'un sexe à l'autre, mais qui est aussi une relation vivable d'un sexe au même sexe, puisque la question du rapport sexuel elle a à voir aussi avec quelque chose du rapport à l'autre, mais aussi de l'autre du même sexe, de l'impossible rapport sexuel. Là, il est question de relations vivables. On voit bien la différence entre le rapport dont parlait Eric tout à l'heure, cette question absolument fondamentale, ce réel de l'absence de rapport, et c'est bien justement parce qu'il y a ce réel de l'absence du rapport sexuel qu'il peut y avoir des relations sexuelles, et en particulier des relations vivables en rapport avec la question de la métaphore paternelle. Là, tel qu'il nous le présente. Il reprend d'une manière un petit peu, on va dire, humoristique, mais grave en même temps, cette question de l'amour lors de dans le séminaire sur la logique du fantasme du 18 janvier 67. Quand il reprend la question du support de l'autre, l'autre aussi de l'amour, dans l'aliénation, on va dire, là ce serait l'aliénation amoureuse. Nous voici suspendus au niveau de cette fonction à un « tu n'es pas, donc je ne suis pas ». Est-ce que ça ne chatouille pas vos oreilles d'une certaine façon ? Tu n'es pas, donc je ne suis pas. Est-ce que ce n'est pas là le langage, je dirais, le plus important de l'amour même ? Tu n'es pas, donc je ne suis pas. Qu'est-ce à dire ? Faut-il en pousser plus loin le sens ? Qui d'ailleurs donne sa vérité, tu n'es que ce que je suis. Chacun sait, et c'est la question du un, aussi du un unien, justement. Il est question dans la division harmonique. Dans ce tu n'es que ce que je suis, c'est ça, ce un aussi. Ce un du couple, ce un qui fait, qui nie absolument toute différence. Tu n'es que ce que je suis. Chacun sait et peut reconnaître que si le sens de l'amour, c'est bien en effet cette formule qui le donne, l'amour aussi bien dans son émoi, dans son élan naïf, comme dans beaucoup de ses discours, ne se recommande pas comme fonction de la pensée. Je veux dire, que si d'une telle formule « tu n'es pas, donc je ne suis pas » sort le monstre dont nous connaissons assez bien les effets dans la vie de chaque jour, c'est très précisément que, pour, que cette vérité, celle « tu n'es pas, donc je ne suis pas hein, », vous voyez le rapport avec la question de l'aliénation « je ne pense pas, je ne suis pas », celle de « tu n'es pas, donc je ne suis pas », cette vérité est dans l'amour rejetée, verworfen. Les manifestations de l'amour dans le réel, c'est très précisément la caractéristique qui est celle que j'énonce de toute Verperfunk, à savoir les effets les plus incommodes et les plus déprimants. Donc, « tu n'es pas, donc je ne suis pas », cette question du « un hein, », cette question de l'illusion du « un » qui viendrait justement obvier à la, au non-rapport sexuel, eh bien, ça fait retour, justement. Hein, ça fait retour, c'est pour ça qu'on on dit souvent que les passions se terminent toujours mal. C'est-à-dire que dans ce « tu n'es pas, donc je ne suis pas », cette formulation-là étant rejetée, va faire retour dans les suites de la passion, et ça peut faire très mal. L'autre question, autour de cette question de la, du passage de la pulsion, j'ai dit que même pour Lacan, ce n'était pas satisfaisant, c'est qu'en fait, on peut considérer, et beaucoup de gens le considèrent, et je pense que Lacan l'a dit dans ce sens-là, c'est que la procédure de la passe vient justement répondre à cette question, hein, à cette énigme de la, du passage, de l'expérience du fantasme, la traversée du fantasme, à la, au passage à la pulsion. Hein. La, il le dit très, très nettement, hein, dans le, déjà, enfin, il ne parle pas de la passe encore à ce moment-là, il va en parler quelques temps plus tard, mais dans le séminaire 11, il pose cette question-là. Qu'est-ce que devient, je le cite, qu'est-ce que devient celui qui a passé par cette expérience concernant ce rapport, rapport opaque à l'origine, à la pulsion? Comment peut être vécu par un sujet qui a traversé le fantasme radical? Comment dès lors est vécue la pulsion? Ceci est l'au-delà de l'analyse et n'a jamais été abordé. La question de la passe, elle est là. Elle est déjà inscrite là. Il va falloir un autre temps, justement, pour pouvoir aborder cette question-là et pour pouvoir répondre à la question que pose Lacan aussi. Ce n'est jusqu'à présent abordable qu'au niveau de l'analyste. Pour autant qu'il serait exigé de l'analyste d'avoir précisément traversé dans sa totalité le cycle de l'expérience analytique. Il n'y a qu'une psychanalyse, la psychanalyse didactique, ce qui veut dire une psychanalyse qui a bouclé cette boucle jusqu'à son terme. En tant que la boucle doit être parcourue plusieurs fois, qu'on peut entendre de plusieurs manières, soit à l'intérieur d'une même analyse, soit à l'intérieur de plusieurs analyses, qu'il n'y a aucune autre manière de rendre compte du terme de Durcharbeiten, de la nécessité de l'élaboration, si ce n'est à concevoir comment la boucle doit être parcourue plusieurs fois. Donc vous voyez que là, il y a cet au-delà dont Lacan nous parle, la passe dans sa question, j'ai envie de dire, en deçà de la procédure qu'il a mise en place, parce que je trouve qu'il faut, enfin, à mon sens, il faut vraiment différencier la question de la passe, la question des procédures qui bredouillent, hein, forcément, pour essayer de faire que quelque chose puisse se dire à ce moment-là, à avoir avec cette question du franchissement et de la traversée du fantasme. Alors, il me reste encore un petit quart d'heure. Si je peux.
Un petit quart d'heure.
Un petit quart d'heure.
Comme ça, on discute parce qu'il y a beaucoup de choses.
Ben, oui. Deux points, enfin, moi, qui me paraissent importants de souligner. Je vais le dire très, très rapidement et on pourra, justement, ça pourra être aussi l'objet de discussion. Le premier point est justement ça à voir avec cette question de la répétition symptomatique et de la répétition logique, la répétition du trait. La répétition symptomatique, elle est au cœur de toute pratique clinique, hein, la répétition logique aussi. Elle est la répétition logique, c'est quelque chose, si on considère effectivement, comme le dit Lacan, la structure, elle est réelle, elle est au cœur de l'analyse. Mais la répétition symptomatique, elle l'est aussi, hein, que ce soit dans une cure, hein, là, ouais, chacun peut trouver vraiment des exemples cliniques très, très facilement dans sa propre expérience, que ce soit des rêves répétitifs, que ce soit des impasses subjectives, toujours les mêmes ornières, en particulier justement autour de la question du ratage, ce ratage qui se perpétue, hein, ce ratage qui serait, qu'on peut bien évidemment entendre comme une négation, comme ce que Lacan énonçait autour de la question de l'amour, ce qui fait retour justement. Qu'est-ce qui, du non symbolisé, ou du mal symbolisé, ou du non advenu, du non réalisé, comme il dit dans le séminaire 11, qu'est-ce qui va faire retour justement dans la clinique du réel? Est-ce que cette répétition-là, c'est tout à fait du même ordre que la répétition au sens de la répétition du trait lunaire? C'est une question. Comment est-ce qu'on peut articuler les deux, hein, ce retour de ce qui n'est pas symbolisé à quelque chose qui vient justement faire en particulier symptôme. Tu as annoncé, Eric, que la prochaine fois vous parlerez du symptôme, donc pour moi c'est vraiment une question importante. Or, il n'est pas question pour moi de séparer les deux, hein, d'opposer les deux, mais de réfléchir, en tout cas de poser la question, comment est-ce que les deux s'articulent. Alors, une des manières, c'est pas la seule, hein, mais une des manières pour laquelle on peut, il me semble qu'on peut poser, qu'on peut essayer d'avancer la question, c'est si on considère que ce schéma, donc d'une certaine manière le schéma logique de la répétition, il vient d'emblée, je veux dire, s'inscrire, hein, vous savez bien que le trait lunaire, il est pris chez l'autre. Hein, c'est quelque chose qui... Donc, d'emblée, à partir du moment où il est pris chez l'autre, il y a quelque chose qui fait que dans le jeu de la répétition, à mon sens, et c'est ce qui permet d'entendre pourquoi il y a une répétition, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a des traits identificatoires qui passent d'une génération à l'autre, et en général pour le pire, que cette boucle logique, elle vient s'inscrire dans un rapport à la mère, au père, aux parents, etc. Il y a quelque chose qui vient s'incarner là, d'emblée. Hein, et que ces marques, hein, c'est-à-dire que cette articulation signifiante qui vient s'incarner dans le champ, on va dire, du père et de la mère, comme Lacan, quand il parle de la division harmonique, il parle de la mère et de l'enfant. C'est-à-dire que l'autre, il y a une incarnation de l'autre. Et la manière dont justement cet autre vient incarner quelque chose de la répétition va forcément marquer pour l'avenir quelque chose qui va se jouer d'une manière singulière. Ce que Freud, vous savez, appelait les frayages. C'est-à-dire qu'une fois, ou ce que Freud dit d'une autre manière, on ne va pas vers la mort par n'importe quel chemin. Il y a des chemins déjà tout tracés. La question de la répétition, la question de la pulsion de mort, elle a à voir avec ça. Et je pense qu'il y a des marques originelles, justement du fait même de la première prise du trait lunaire chez l'autre, qui vient s'incarner, qui vient se marquer de la manière dont ça a été pris de manière spécifique ou pas pris du tout par, en particulier, on va dire, la mère. Quelque chose d'un peu plus trivial. Donc, je pense que là, il y a une articulation, à mon sens, qu'on peut penser entre structure et histoire, et qu'on peut penser aussi en termes de répétition symptomatique et en termes de répétition logique. Puisque dans cette répétition, au sens où c'est pris, où justement c'est pris dans l'incarnation par l'autre, où l'autre vient incarner quelque chose dans ce fonctionnement justement de la répétition, et dans cette aliénation, c'est pas n'importe quelle aliénation, l'aliénation au sens logique du terme, avec le manque dans l'autre, et puis il y a cette incarnation particulière qui va se passer pour un sujet, qui est le sujet justement pathologique qu'on reçoit aussi en analyse. Il y a quelque chose qui vient s'inscrire d'une manière singulière. Bon, je pense qu'on a tous des exemples cliniques dans la tête par rapport à ça, quoi. Et vous savez, ça répond aussi à une des... Enfin, c'est une boutade, mais c'est pas qu'une boutade. Lacan, dans son dernier séminaire, qu'on considère comme un séminaire ou qu'on ne considère pas comme un séminaire, celui de dissolution, il pose la question, mais pourquoi est-ce que les patients s'évertuent toujours à parler de papa et de maman, hein, malgré tout. Sinon, c'est sa manière d'y répondre, sinon c'est parce que c'est eux qui ont donné les mots, qui ont permis les mots, ou qui ont instauré, qui ont fait entrer justement le sujet dans l'enfant, dans les mots. Donc, je pense que si on garde ce schéma-là, on peut penser que la relation à la mère, c'est déjà un transfert, et qu'il y a quelques en particulier relations à la mère ou au père, ou aux grands-parents, ce qu'on veut. Mais en tout cas, il y a déjà quelque chose d'un transfert, il y a déjà quelque chose, c'est déjà une répétition, mais qui donne un certain nombre de marques et un certain nombre de coordonnées de jouissance très précises qui vont donner de l'étoffe à cette répétition et, là aussi, pas forcément pour le meilleur, hein, puisque là, vous savez que ce que Lacan définit comme la clinique, c'est le réel en tant qu'impossible à supporter. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'insupportable, mais c'est insupportable justement, et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui doit, pour ça que par rapport à ce que dit Iskovitch, il y a quelque chose qui doit effectivement tomber, hein, c'est l'insupportable, c'est pas l'impossible. L'insupportable, c'est en tant que l'impossible est d'une certaine manière rejeté, verworfen, et d'une certaine manière barré, hein, par la névrose, par d'autres formes de structurales. La deuxième question, mais qui est, voilà, le deuxième point, mais qui est tout à fait associé, c'est que la question va se poser du fantasme. En tant que, si on garde cette formulation de l'expérience du fantasme qui devient la pulsion, ça ne veut absolument pas dire que le fantasme est déjà là au début d'une cure. Il peut être, il y a quelque chose de l'ordre d'une structure du fantasme qui peut déjà être là, comme c'est quelque chose au contraire qui va devoir se construire à l'intérieur même d'une cure. Et ce n'est pas la même chose. Et en particulier, c'est-à-dire que si dans les deux cas, il y a quelque chose qui doit chuter à la fin d'une cure, justement pour ouvrir sur la pulsion, c'est pas la même chose de penser que le fantasme serait déjà là, ou d'une part qu'il doit se construire à l'intérieur d'une cure, et c'est, on va dire, deux cliniques un peu différentes, quand même. En particulier, hein, pour reprendre cette question de IDEA, cette question de l'idéal du moi, qu'est-ce que c'est, puisque c'est quand même des choses qu'on entend aussi dans la clinique, puisque si IDEA, c'est le point où le sujet se voit comme aimable chez l'autre, quand cet IDEA lui répond « crève », meurt, c'est-à-dire les désirs de mort qui vont pouvoir se porter sur un enfant. Il y a quelque chose là qui est quand même à prendre en compte aussi, C'est-à-dire que là, il y a quelque chose, justement, de la fonction de I de A, qui va devoir être détournée, hein, qui va devoir être à la fois, cette question, elle est absolument fondamentale, puisque on sait bien ce qui va se répéter dans ces schémas-là, hein, en particulier, bon, c'est toute la clinique des personnes qui ont été battues, des personnes qui ont été incestées, des personnes hein, qui vont justement, qui sont marquées par cette question d'un I de A persécuteur, où ils y retournent, hein, la question de la... Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose dont il faut sortir, quand même. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la répétition, et dont il faut sortir, mais en même temps, il y a cet I de A persécuteur. Dans la clinique, ce qui apparaît aussi, c'est que les sujets vont cliver quelque chose et vont chercher un autre élément imaginaire qui va avoir une espèce de fonction quand même symbolique pour tenir quelque chose, justement pour ne pas totalement s'effondrer dans la destruction par l'autre. Voilà, j'arrête là.
Merci. Merci de tout le travail que tu as fait. Alors, j'ai beaucoup de questions, par contre. Des questions et par rapport à... Tu as parlé des deux répétitions. Moi, je trouve que ce n'est pas approprié de parler des deux répétitions. Je crois qu'il y a deux... Dans la citation dont j'ai parlé tout à l'heure... Je crois qu'il y a deux plans, Lacan intervient sur deux plans, celui des structures et celui de quelque chose qui a un rapport avec une perte des jouissances dans la répétition, qu'on n'arrive pas encore à articuler. C'est-à-dire pour moi, c'est la même répétition, parce que c'est le même sujet, mais on n'arrive pas encore à bien les articuler l'une avec l'autre. Parce que c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a deux répétitions. D'ailleurs, Deleuze le dit dans différence des répétitions. Il dit qu'il y a deux répétitions, mais bon, c'est pas qu'il y a deux répétitions. C'est qu'on n'arrive pas à les articuler suffisamment pour l'instant, je trouve.
Et quand je crois du plan à distinguer, c'est la répétition en termes signifiants, hein, effectivement, qui donc du coup est logique, mais ça ne suffit pas à rendre compte de tout ce qui peut se passer dans la répétition. Ça, donc on est d'accord. Mais je crois que c'est le terme de jouissance introduit par Lacan, de jouir, qui permet de voir ce qui est emporté dans la répétition, qui ne sera pas complètement pris en charge par le signifiant, donc qui concerne un aspect de jouissance. Ça ne crée pas une deuxième répétition, effectivement. C'est dans la répétition, inversant signifiant et inversant jouissance. Pour aller vite, quoi, comme ça.
Je suis d'accord.
Mais effectivement, ne pas tout voir en termes purement signifiants, parce que l'objet A n'est pas insignifiant. Donc, avoir aussi cette jouissance avec l'objet A.
C'est pas contradictoire de parler de répétition.
Oui, je ne sais pas s'il faut l'appeler cette problématique, oui, parce que la jouissance n'est pas réservée aux symptômes.
Mais que la répétition soit dans la jouissance.
Oui, et que dans le symptôme, effectivement, il y a une part de jouissance. Part de jouissance qui n'est pas seulement dans la répétition symptomatique, dans la répétition signifiante.
Oui.
Et que on peut l'appeler que c'est dans les symptômes qu'effectivement cette part non purement signifiante va se repérer à ce moment-là. Mais ça ne fait pas une catégorie de répétition signifiante.
Non, enfin, oui, c'est... Non,
je pense que je suis d'accord avec ça. Mais je pense qu'il faut quand même faire très attention, parce que je pense qu'on va vite dans des catégories après.
Je pense qu'il faut différencier les plans, quoi. Effectivement, je pense qu'entre le plan signifiant et le plan de la jouissance, qui est encore différent du plan de l'objet A, parce que l'objet A, il n'est pas... Il n'est pas donné d'emblée non plus.
Oui, hein, c'est quelque chose. Et de quelle puissance, puisque Lacan a distingué plusieurs formes. Donc,
il y a. Non, non, je pense que c'est des plans, vraiment des plans différents. Hein, et bon, ça a à voir aussi avec le 2 qui fait du 1, enfin quelque chose, où les deux s'accordent d'une certaine manière en créant quelque chose. Mais effectivement, ce n'est pas deux, quand je disais deux répétitions, c'est plutôt deux acceptions de la répétition qui ont à voir avec des données différentes. Parce que sinon, effectivement, on ne peut pas comprendre. Hein, là, je me rappelle la fois dernière, la surprise d'Éric, hein, par rapport à ce que disait Escovitch, qui était, ben, qu'est-ce que ça veut dire qu'une répétition qui doit s'arrêter ? Ben oui, bien évidemment, si la répétition elle est uniquement du côté signifiant, il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête. Hein, au contraire, hein, il faut au contraire que ça continue à produire et à développer du désir. Mais si par contre, effectivement, on la porte du côté de la jouissance et du côté de ce qui n'a qui oui, de ce qui vient en même temps, d'une certaine manière, figer quelque chose de la croyance ou je ne sais pas quoi, la croyance inconsciente ou en tout cas de la prise dans la jouissance du dit rapport sexuel en tant qu'il existerait, là il y a quelque chose qu'il faut absolument différencier les deux. Hein, ce n'est pas la même chose du tout.
Je me demande si on ne peut pas, si au cas avec ce que tu as dit, écoute, tu as insisté à me donner sur la partie de l'identification symptôme sur la singularité, parce que Lacan, dont il parle aussi dans le 4 concept, sur justement le signifiant traumatique, c'est-à-dire le premier signifiant, S1, qui n'est pas, qui à la limite quasi. Une hypothèse quasiment, mais qui ne représente pas le sujet pour un autre signifiant, c'est-à-dire qui constitue une marque unaire, pourtant le unaire est aussi un signifiant, mais qui ne va pas représenter le sujet pour un autre, c'est-à-dire quelque chose de voilà, d'isolé, qui est situé par rapport au traumatisme, et donc et c'est ça aussi dans le symptôme qui va se répéter. Mais se répéter, mais pas de la façon dont signifiant, justement, se répéter comme marque. Alors, il prend l'exemple de dans l'homme au loup, alors il faudra discuter, il ne s'agit pas finalement l'esprit, mais l'exemple dans l'homme au loup de Wolf, le loup, Wolf, dans la mesure où non seulement ça intervient dans ses fantasmes, ça intervient dans son rêve, les loups sur l'arbre, et puis ça intervient comme l'être, lever les jambes écartées, enfin tout ce qui est tout ce qui vient justement au niveau de la lettre. Et là on touche peut-être aussi cette question de la différence entre signifiant et lettre, puisque c'est
et tu disais le trait unaire ça vient de l'autre. Ça vient de l'autre, mais c'est. Si, ça vient de l'autre, c'est incarné, donc ça vient aussi le sujet qui le porte, donc c'est pas.
C'est saisi chez l'autre, mais par rapport à. C'est saisi chez l'autre, hein, avec le côté traumatique que ça peut avoir, mais la question enfin, qui se pose, moi je trouve, par rapport au traumatisme, c'est que. Et c'est là où. Où on est toujours. C'est compliqué. Là aussi, il me semble qu'il faut différencier les plans sans les opposer, hein, mais il faut les différencier. C'est-à-dire que ce qui a à voir avec la question du traumatisme, hein, qui est quelque chose de structural chez tout un chacun, hein, de toute manière, et qui, justement, qui renvoie, en tout cas qui s'articule avec la question du non-rapport sexuel, la question du traumatisme, c'est pas la même chose que. Certaines fonctions traumatiques qu'on peut entendre dans certaines histoires. C'est-à-dire qu'il y a des histoires absolument traumatiques qui vont bien évidemment s'appuyer hein, sur la question du traumatisme, mais qui pour autant vont introduire des questions cliniques tout à fait autres, et des types de transferts tout à fait autres, et des types de rapports de jouissance aussi tout à fait autres, que quelque chose où justement, c'est pour ça que je prends. Quand je prenais tout à l'heure l'exemple, j'avais quelqu'un en tête, hein, quand je prenais l'exemple de cet idéal du moi qui parle et qui dit crève, hein, voilà, c'est quand même, là, c'est, heureusement, c'est quand même pas donné à tout un chacun. Hein. Donc il y a quand même quelque chose là où la question du traumatisme et du traumatisme sont à différencier aussi. Même si le traumatisme, il est aussi pris dans la construction structurale. Hein, il ne peut pas être autrement.
Tout à fait. Non, hein, c'est,
là, il y a, voilà, il y a des distinctions à faire, mais dans quelque chose où on a les articulés, quoi, où dans la cure, quand on a à travailler, à interpréter, à se situer d'une certaine manière par rapport à ces questions-là, on est obligé de penser, qu'on y pense après coup, pas forcément dans la cure, mais qu'on y pense après coup, à se situer sur ces différents plans. Quoi. Où il y a des discriminations quand même à faire. Quoi. Parce que le signifie, moi tel que je l'entends, enfin le signifiant traumatique dans la campagne, ça a vraiment à voir avec la question effectivement de ce signifiant qui ne représente pas le sujet, hein, mais qui signifiant mythique ou pas mythique, enfin bon ça, c'est une question infernale, hein. On ne peut pas y vraiment y répondre, mais en tout cas on peut le penser comme mythique ou pas, mais ça c'est quelque chose qui de toute manière, et on peut dire, se réalise chez tout un chacun. Hein, c'est quelque chose, oui, qui est vraiment quelque chose. Or, il y a des positions traumatiques de l'autre qui vont introduire quelque chose d'autre que ce signifiant traumatique-là du sujet dans la structure du sujet lui-même. Hein. En tout cas, voilà. C'est-à-dire que là, on ne peut pas mettre de côté cette fonction-là, à moins de désincarner totalement.
Voilà, là où je voulais venir, parce que tu appuies beaucoup dans le travail que tu as fait sur le mot expérience. Tu parles d'incarner, d'expérience.
Ça, c'est Lacan qu'on parle. Hein. Moi, j'insiste dessus.
D'accord, mais. Moi, j'avais tilté sur le mot repérage. Tu parlais plus d'expérience. Donc chacun lit aussi. Tu parles de la question de l'expérience, s'expérimenter comme désir, l'expérience du fantasme fondamental. Et là, tu enchaînes sur la question de l'objet séparateur incarné. Donc l'objet petit a incarné que par l'analyste et que en fait je voudrais plus que tu vois pour moi c'est la question de la coupure qui vient avec effectivement l'analyste incarne l'objet petit a, il est embarrassé de lui, de l'objet petit a de son analysant, mais sa fonction est, tu dis, séparateur dans le sens de séparer le grand I de petit a. Et quel lien tu fais avec la coupure? Est-ce que c'est ça la coupure pour toi? Comment tu dis ça?
C'est pas moi qui le dis, c'est Lacan. Hein, donc la question, c'est comment je le lis.
Comment toi tu le lis, oui.
Moi, je pense qu'il y a deux. Enfin, voilà, là encore, hein, je fais pour me repérer, hein, justement.
Oui, oui.
Hein, pour me repérer, moi, je fais des discriminations, quoi, aussi. Hein, on va dire presque temporelles, à la limite, ou logiques, hein, aussi. C'est-à-dire que dans toute cure, il y a des moments de. On va dire de. Ce que les classiques appellent des moments mutatifs, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose au détour d'un rêve, au détour d'un lapsus, au détour d'une formulation, au détour de trois mots qui d'un seul coup prennent complètement une autre signification que celle qui a priori voulait être donnée par l'analysant. Là, il y a quelque chose qui va pouvoir chuter, déjà. Il y a quelque chose de la coupure qui va pouvoir se mettre en place et va relancer quelque chose de l'ordre du désir. Elle va sortir le discours courant, hein, le discours qui tourne tout seul. Je pense que là, il y a quelque chose de l'ordre de la coupure qui est déjà en jeu. dans le mouvement même de la cure, mais qu'il y a quelque chose d'autre en même temps, qui est presque d'un autre registre, mais qui est totalement lié, c'est la question de, telle que Lacan en parle, à la fin d'une analyse, de l'analyse qui vient occuper la fonction de déchet, la fonction d'objet en tant qu'il chute. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que c'est à la fois, c'est lié, mais c'est comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de, du fait même que dans ce travail de la cure, parce que si, si à l'issue d'une une analyse, hein, le nombre de tours dont il est question là, c'est ça aussi. C'est-à-dire que dans une cure analytique, il y a des moments, il y a plein de moments où il ne se passe strictement rien, et puis il y a des moments où il se passe quelque chose justement qui est de l'ordre de la séparation, qui est de l'ordre de la coupure, qui est de l'ordre de la chute d'un, de l'objet. Il y a une il y a des désidentifications qui sont à l'œuvre aussi à ce moment-là. Et que ce processus, on pourrait dire presque, la, pour reprendre la formule de Lacan par rapport à la langue, est-ce que la coupure à la fin de l'analyse dont il parle, de l'analyse comme objet A, est-ce que ce n'est pas l'intégrale de toutes ces coupures-là, hein? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vient se sommer, hein? Où il y a quelque chose où, d'une certaine manière, il y a, par rapport à la question du grand I qui est porteur de ce masque, il y a quelque chose là qui viendrait justement tomber, mais ça ne vient... La question de la séparation, elle n'est pas, à mon sens, uniquement au moment de la fin de l'analyse. Hein, pas du tout. Hein, elle est vraiment dans d'autres moments, en cours même d'analyse. Sauf qu'il y a quelque chose quand même de spécifique dans l'optique lacanienne de la fin de l'analyse, qui a effectivement que l'analyse, comme sujet supposé savoir aussi, vient chuter. Et c'est en ce sens-là qu'il vient occuper la fonction d'objet. Hein, c'est la fonction d'objet en tant que fonction vraiment de manque. Et que d'une certaine manière, il n'y a rien à lui demander de plus. Justement, il y a quelque chose qui vient tomber, il n'y a plus, les associations se vident par elles-mêmes, les rêves se vident par eux-mêmes, tournent en rond, il y a quelque chose là qui vient se jouer, où il y a quelque chose qui ne tient plus. C'est-à-dire que, mais c'est parce qu'il y a déjà eu ces coupures dans le processus même de l'analyse, le nombre de tours qu'il peut y avoir là, que quelque chose va... va chuter, enfin, je ne sais pas si, si tu es d'accord. Enfin, c'est...
Oui, en partie, mais je ne crois pas que ça... Parce que là, tu parles de coupure dans les transferts, dans les transferts, oui, mais il y a aussi les coupures qui sont plus du côté de la coupure du signifiant, qui est un autre plan de, du transfert. Je
ne
sais pas.
Je n'ai pas le texte sous les yeux, c'est dommage, mais le sujet de cette séparation de I de A, c'est intéressant que justement tu aies centré ton exposé là-dessus, enfin en partie, parce que ça, c'était un point. Enfin, on a beaucoup travaillé sur cette question du fantasme et de la pulsion, mais sur ce point précisément, c'est vrai qu'on n'a pas directement repris le texte de Lacan dans les quatre concepts, donc c'est intéressant que tu apportes cet éclairage. Et, mais justement, je pense que, enfin, on y reviendra, mais c'est. parce qu'il y a une petite. Je crois me souvenir, je ne sais pas si c'est présent, enfin aussi pour toi, que dans la question de cette séparation, enfin cet écart entre I et A, est problématique, c'est-à-dire d'abord comment fait-on cet écart et deuxièmement, est-ce que c'est cet écart qui entraîne, c'est-à-dire le fait de faire cet écart qui entraîne la pulsion ou est-ce que c'est parce qu'il y a la pulsion que cet écart se creuse? Je ne sais plus. Enfin, il y a une phrase de Lacan où justement Miller a enfin, où nous, parce que si on a fait un établissement aussi de ce texte avec une version espagnole, et on a mis une note là parce qu'on n'a pas tout à fait subi la enfin, quand on n'a pas le texte, on ne peut pas en discuter, mais ce qui me semble, enfin, moi, ce qui je trouve bien à propos avec un visuel harmonique, c'est qu'au fond,
De quoi s'agit-il dans la division harmonique? Il s'agit bien ici de I et de A. L'écart entre I et A, le rabattement de l'objet A sur I, avec I, l'union, etc. Oui. Donc, on voit que ça correspond. Il y a une correspondance, une correspondance entre les quatre concepts et la division harmonique de l'origine frontale de ce côté-là. C'est-à-dire, voilà, faire l'écart. Donc, comment va-t-on faire l'écart? Et c'est là où ça peut apparaître comme paradoxal. Au lieu de faire un écart avec un écarteur chirurgical, eh bien, on fait l'écart au contraire en rabattant A sur I. C'est en faisant précisément l'opération que Freud dit réalisant l'idéal de la foule, quoi, l'opération inverse. C'est-à-dire qu'il s'agit non pas de vouloir absolument écarter A de I, mais au contraire de pousser le plus possible A sur I pour rencontrer ce que j'appelle cette coupure, ce manque de l'objet qui jamais n'atteindra par la répétition à la somme de 1 en les additionnant. Donc c'est intéressant, quoi. Ça donne, au fond, certaines réponses à comment faire cet écart. Pour faire l'écart, il faut au contraire chercher à le creuser le plus possible.
Oui, je pense. Continuer dans la discussion entre nous, là. C'est que.
Oui, parce que peut-être qu'il faut.
Non, mais par rapport à la question du transfert et la question de la coupure signifiante, je crois que là aussi, il ne faut pas opposer l'un ou l'autre. Parce que si, c'est bien parce que dans le transfert, si j'ai parlé des rêves, des lapsus, etc., c'est bien la coupure signifiante qui vient d'une certaine manière dégager quelque chose de l'ordre du transfert. Là où justement le transfert viendrait. Figer quelque chose. Dans I de A, justement, c'est la question du 1, il y a quelque chose qui vient. Justement, le lapsus, etc., il vient trouer cette question, cette question-là. Quoi. Je veux dire, c'est, la coupure, elle est signifiante. C'est, et elle vient. Elle vient
être aimé de l'autre, c'est, ou être aimable aux yeux de l'autre, c'est aussi se compléter en complétant l'autre. Donc, c'est l'union.
Ce qui rend toute la difficulté de l'amour, quand même. Parce que
peut-être on peut laisser la parole un peu à ceux qui écoutent.
Oui, dans prendre une question, j'avais déjà posé à Edith Paclay il y a un an, déjà, enfin ça m'a jamais revenu en vous écoutant, sur, quand vous avez parlé du repérage, justement, vous avez beaucoup insisté sur le repérage et. Il est venu que ça passait un peu sous silence la charge pulsionnelle du dire dans la cure. Du dire lié à la pulsion invocante. Quoi. Parce que, voilà. Là, ça m'est revenu quand vous avez parlé de la dérive romantique de la fin de l'analyse qui devrait conduire au processus sublimatoire. Et donc la question, un peu comme ça, c'est la cure elle-même n'est-elle pas un processus sublimatoire? Qu'est-ce qui dans le rapport au dire et à la plus fin invocante, est-ce qu'il n'y a pas de la sublimation dans la cure elle-même, dans le fait d'entrer en cure ou d'être analyste ou de parler en tant qu'analyste, ou d'écouter d'ailleurs en tant qu'analyste, est-ce qu'il n'y a pas à voir avec un processus sublimatoire qui serait à l'œuvre voilà. Est-ce que ce ne serait pas d'ailleurs un chose qui permettrait de mesurer justement qu'il s'agit d'une parole analysante, quoi. C'est-à-dire que dire cette parole, c'est pas n'importe quel dire.
Ça je peux répondre oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas la même chose de dire, effectivement, comme il l'a dit, de mettre la fin de l'analyse comme si à la fin on atteignait une sublimation au sens d'une création ayant valeur reconnue, etc. Ce qui est discutable, enfin, ce qui serait à voir dans chaque cas, mais dire que l'analyse est une sublimation, croire que oui, on peut dire que oui, d'une certaine façon. Et d'ailleurs, une des premières occurrences du terme de sublimation chez Freud, c'est pour parler du transfert. Le transfert est une sublimation. Il le spécifie
quand on fait une sublimation sur certaines qualités ou défauts de l'analyste, alors bon, mais il situe le transfert comme sublimation. Donc je pense que oui, tout à fait, enfin, le voir sous cet angle-là, ça me semble légitime.
Et peut-être pour lien entre les deux, puisqu'on parlait de la passe, il y a quelque chose aussi dans la passe, du passage de cette sublimation de la cure en tant qu'analysant, et de qu'est-ce que cette sublimation devient dans ce passage à l'analyste, qu'est-ce qu'on fait l'analyste.
Oui.
Donc il y a quelque chose de la passe qui raconte aussi de ça.
Et donc ça, ça... Enfin, je pense que... Alors c'est toujours difficile parce que quand ça dit sublimation, on peut le voir vraiment en extension, en intention, enfin vraiment on peut le faire très large ou plus resserré. Je pense qu'effectivement, dès qu'il est question, par exemple, dans le travail même de l'analyse, je ne parle pas de la question de la passe, hein, mais ça a à voir aussi avec ça. Quand par exemple, on s'interroge sur ce qui a pu se passer dans une cure, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé, qu'est-ce qui fait qu'on est passé à côté, ou qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas entendu, etc. On peut dire qu'il y a de la sublimation. Il y a quelque chose là, dès qu'il y a un recul qui est pris, dès qu'il y a une perte de jouissance aussi, par rapport à l'ici et maintenant de ce qui a pu se passer, je pense que là, il peut y avoir un travail de sublimation. Que dans la question de la passe, en tant qu'elle vient renouveler quelque chose de l'ordre. Je parle de la question, j'ai beaucoup de mal avec la procédure, mais en tout cas sur la question, par contre, très importante, la question qui est en jeu de s'interroger, cette interrogation, mettre des mots sur ce qui a pu se passer dans ce passage-là, paraît effectivement quelque chose de sublimation, mais quelque chose qui est aussi vrai dans un travail de cure, pas forcément dans la séance même, hein, mais dans l'après-coup, quand on est amené à y revenir, à s'interroger dessus, qu'on le fasse d'ailleurs consciemment ou pas consciemment, hein, de la même manière que quand on est analysant, le travail des... Quand on est analyste, ça continue de nous travailler, hein, même si on n'y pense pas.
Bon, ben merci beaucoup. Et donc, le prochain.
C'est le 7 juin, je crois.
7 juin, toujours ici. Hein. La dernière avant
le.